slum, can't get out the bump. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Il est 20h passé de 2 minutes, bienvenue sur Radio G, vous êtes à l'écoute de Génération Sport pendant une heure. On va vous parler sport, actu local, actu international, pas mal de choses donc pour cette émission de prévu pendant une heure. Avec moi autour de la table, forcément, les deux mêmes que d'habitude. Voilà, on est en collectif réduit, mais ils sont là, ils sont bien présents, à commencer par ma droite avec toi Amaury. Comment ça va?
Eh ben ça va super, écoute-moi, ça va mieux en tout cas, j'étais bien enrhumé ces derniers jours, aujourd'hui ça va mieux, donc présent aujourd'hui, un week-end de sport où j'ai moins consommé des fois, par contre je suis allé sur une petite course locale où j'ai pu faire quelques vidéos, la Solid Run, je leur passe le bonjour, voilà, donc un bon petit week-end de sport de mon côté.
Tu t'es quand même un petit peu reposé pour être en forme aujourd'hui aussi. Salut Paulin, comment tu vas?
Salut Mathéo, et bah écoute, ça va très bien pour moi, bonsoir à tous, heureux d'être là avec vous ce soir.
Pareil, ton week-end de sport a été chargé, je crois savoir que t'as été à Raymond Coppa.
Ouais, exactement.
On en parlera tout à l'heure, c'était sympa.
Ouais, sympa, je sais pas, mais on en reparlera, on va dire.
Avec nous aussi autour du plateau, Nolwenn, animatrice de l'émission Topette depuis quelques temps maintenant, service civique à la radio aux côtés de Pierre Benoît, comment tu vas?
Ça va super, je viens assister pour la première fois à l'émission, j'ai hâte de découvrir comment ça se passe.
Et ben tu feras tes petits retours à la fin de l'émission. On espère que ça te plaira, Nolwenn. Alors juste avant de commencer donc le journal des actualités locales sportives, nous souhaitions adresser nos plus sincères condoléances à la famille du coureur angevin décédé ce dimanche lors de l'épreuve de cyclosport d'Evron. Voilà, adepte et habitué des courses cyclistes, c'est un passionné qui nous quitte. Une minute de silence a d'ailleurs été observée pour lui rendre hommage à la fin de la course. On passe au basket avec toi, Paulin. Et pas mal d'actualités aussi et pas forcément positives.
Ah, exactement. Donc après sa défaite face à Besançon, le AB s'est pas forcément relevé mardi dernier et a concédé une très lourde défaite devant son public à Jean-Bouin, s'inclinant 86 à 64 face à l'équipe de Berck. Les Angevins ne sont pas rentrés dans leur match et se sont fait surprendre, laissant l'équipe de Berck prendre une avance de 18 points dans la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les joueurs de John Delay auront tenté de se discipliner davantage pour revenir, mais l'adresse extérieure leur a fait défaut. Elle a été réellement catastrophique avec un 4 sur 25 à 3 points. En face, le banc de Berck aura été très costaud avec 38 points, montrant également l'importance de la profondeur de banc et d'effectifs au sein d'un collectif. Prochain rendez-vous pour le AB, c'est vendredi, déplacement à Avignon, puis ce sera Charleville le 6 mai à la maison à Jean-Bouin, et enfin Boulogne à l'extérieur le 9 mai pour clôturer cette saison. Le AB est toujours premier de poule basse de National 1, mais attention aux éventuels revers, la dynamique n'est pas bonne avec deux défaites de suite, et il n'y a seulement qu'une victoire qui sépare le AB de la 7e place. Faudra donc être nombreux à Jean-Bouin le 6 mai pour supporter le AB et les pousser vers la victoire face à Charleville. Rendez-vous donc mardi prochain. On rappelle, côté UFAB, qu'elles ont été éliminées des playoffs de Boulangère Wonder League après une terrible déception la semaine dernière face à Charnay. On était là avec Faustin et Alex pour commenter un peu la rencontre en direct. Et ouais, franchement, des illusions par rapport à ce qu'elles avaient pu proposer au match aller. Côté Cholet Basket, les Rouges et Blancs, ils ont perdu dans le chaudron du Portel 80 à 87 dans une ambiance électrique. À noter la belle performance de Cassius Stanley. Je tenais à lui faire une petite dédicace, même si bon, j'imagine qu'il nous écoutera pas, parce qu'il évoluait dans, donc là, il évolue dans les rangs du Portel depuis peu, et il était passé par l'université prestigieuse de Duke avant de rejoindre les rangs de la NBA aux Pacers d'Indiana, là où ça n'a malheureusement pas fonctionné pour lui, mais qui était vu à l'époque de Duke comme un potentiel athlétique assez hors norme et un joueur explosif capable de driver et d'aller écraser la balle au cercle. Désormais, vous avez la chance de pouvoir le voir évoluer dans notre Bet League Elite pour encore quelques matchs. Pour CB, du coup, ils se maintiennent à la quatrième place et il leur reste trois matchs avant les playoffs avec un gros choc et un beau challenge à venir ce dimanche face à l'ASVEL où, à mon avis, la Meyret saura rugir pour porter son équipe vers la victoire.
Merci Paulin pour ces infos basket. On passe d'un ballon à un autre, un plus petit. Amaury, à toi pour nous parler du handball et du SCO.
Ouais, le SCO handball, et ben, sur cette fin de saison, le SCO réussissait plutôt bien à domicile, mais quand il s'agissait d'aller à l'extérieur, c'était beaucoup plus compliqué. Et ce week-end, ben, ça s'est encore confirmé avec une lourde défaite du côté de Cherbourg. 33-26, la différence s'est faite dès la première mi-temps, hein, moins 7 à la mi-temps. C'était quasiment plié d'avance. Aujourd'hui, le constat, il est simple. Il reste deux matchs. Le SCO doit impérativement les gagner. Espérer que Massy perde et en plus rattraper un différentiel de 39 buts. Autant dire que ça paraît complètement impossible. Le sort du SCO dépendra donc finalement du club de National 1. Est-ce que l'un d'entre eux trouvera les sponsors nécessaires pour pouvoir monter en Pro League? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le SCO devrait donc se maintenir. Mais c'est pas de cette manière-là qu'on espérait le maintien pour le SCO.
Allez, on passe du côté des Ducs d'Angers, directement donc avec Jonathan Paredes, l'entraîneur qui voit un de ses cadres filer en Hongrie. Le Canadien Brady Shaw, qui revient dans un pays qu'il a déjà connu à Fervar. Meilleur pointeur de Ligue Magnus la saison passée avec 60 points en 44 matchs de saison régulière. Il est évident que cette perte s'annonce majeure, d'une redoutable efficacité et bâtisseur d'un record angevin, celui d'avoir inscrit 36 buts en une saison. Il s'agit du deuxième départ pour les Ducs depuis la fin de la saison. Dans le même temps, Angers enregistre l'arrivée de Romain Gutiérrez, formé à Rouen, triple vainqueur de la Ligue Magnus et depuis 8 ans joueur de Gap. Et puis c'est parti depuis une heure environ au complexe de l'Europe pour les Loups d'Angers qui jouent contre les Tiques de Roanne, avant-dernier du championnat. Si Angers gagne et que dans le même temps Torigny venait à perdre contre Montpellier, alors les Angevins seraient assurés au minimum d'une quatrième place, synonyme de play-off. Nous allons bien évidemment suivre de très près cette rencontre. Volet féminin et masculin maintenant, à commencer donc par les féminines. Dans cette journée à deux visages pour le SCO, elles ont assuré leur maintien en s'imposant 3-0 face à Vélizy au mental après une série noire de 8 défaites consécutives. Et puis du côté des masculins, la récolte a été tout autre. Il fallait impérativement une victoire 3-0 face aux Bretons de Saint-Renan pour se maintenir, mais le miracle n'a pas eu lieu. Défaite 3-1 en terre finistérienne. Dimanche, c'était aussi la finale de l'Open d'Angers de tennis, une finale remportée par le Toulousain Arthur Raymond, 2-6, 6-2, 7-6 face au Lambertois Clément Tabur, déjà vainqueur à Angers. Troisième duel entre les deux hommes et une histoire qui bascule du côté d'un revenant. Arthur Raymond fut victime d'un accident qui l'écarta des cours 2 ans, lui qui, selon les médecins, n'aurait jamais dû rejouer. Sacrée histoire, une autre belle histoire, celle de l'Avriaise Inès-Marie Ducancel, favori dans sa concurrente Camille Ploto. Elle n'a pas vraiment été inquiétée tout au long de sa course pour aller remporter le semi-marathon de Nantes en 1h16 et 51 secondes, à 13 secondes de son record, mais à 1 minute 39 de Camille Ploto, elle qui n'a pas eu une vie facile, aussi entre les hauts et beaucoup de bas, en proie à de nombreuses angoisses existentielles. Elle tomba dans le coma en 2022. Petit à petit, elle se remet et puis reprend goût à la vie, trouve un compagnon de voyage nommé Yuki, un golden retriever roux beige, et voit une certaine thérapie dans ses jambes. Débarquée dans le paysage athlétique en 2024, elle n'en finit plus d'épater son monde. Tout cela, elle le raconte dans un entretien accordé à nos confrères du Courrier de l'Ouest, Tristan Blaisonneau, que je vous incite bien évidemment à aller consulter. Place au rugby désormais, où le SCO se déplaçait à Caen pour le compte de la 32e de finale de Fédéral 3. Deuxième de sa poule, les Angevins devaient se méfier d'une équipe qui restait sur 2 défaites lors des 10 derniers matchs. Et à la fin, le SCO, pourtant cohérent à la mi-temps avec ce score de 12 à 10 pour les locaux, a complètement craqué dans le second acte. Défait 45 à 24 dans le Calvados, condamné à un exploit monumental qui serait des plus fédérateurs. Angers à l'avantage du retour à domicile. Un acte 2 programmé le dimanche 4 mai à 15h au Parc des Sports de la Baumette. Pour en finir avec le rugby, un petit mot de Sèche qui s'est offert un titre de champion de Régional 3 dimanche face à Saint-Hilaire-Océan, qui n'avait jusqu'alors été défait qu'une seule fois au cours de la saison régulière. Pour finir, finir donc cette actualité sportive et avant de parler du SCO football, une info donc dans le Maine-et-Loire, ça a été annoncé cet après-midi, la fusion ou plutôt l'absorption du RC Cholet par le SCO Cholet. C'était dans les petits papiers depuis quelques temps maintenant, acté le 4 avril. Le RC Cholet qui venait de descendre en R2 un an seulement après leur montée en R1. Eh bien, le projet a été validé cet après-midi lors d'une assemblée générale exceptionnelle, une fusion qui va faire du bien dans le football choletais. On rappelle que le SOC a été rétrogradé sportivement en National 2 il y a un an, mais en Régional 3 administrativement. Championnat occupé cette saison par le SOC, qui devrait aussi être le cas donc la saison prochaine, puisque les Choletais sont à 6 points de Guérande à 2 journées de la fin, mais avec une meilleure différence de but. De belles perspectives semblent possibles cependant, puisque donc avec cette fusion, Cholet devrait avoir à la fois une équipe en R2 et en R3. Affaire à suivre donc dans les Mauges. Et puis donc restons en football. Propulsons-nous en Ligue 1 où le SCO a de nouveau perdu, 7e défaite sur les 8 derniers matchs, à nuancer avec un calendrier chargé, mais à mettre en résonance avec une envie qui semble avoir disparu. Une défaite 2-0 contre Lille avec un SCO baladé par des Lillois à la technique supérieure mais à la tactique qui n'était pas révolutionnaire. Angers qui n'a pas su faire mouche lors de ces grosses occasions. Alors Paulin, comme moi, tu étais au stade. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ?
Exactement, déjà t'as un petit peu fait le point. On a des occasions en début de match, ça veut dire qu'on profite d'erreurs lilloises qui n'auront pas duré en fait dans ce match. On n'a pas réussi à les convertir. On a d'abord Abdelli qui arrive à chipper ce ballon à André Gomes. Il a l'occasion pour marquer. Frappe qui va tout droit dans les bras de Lucas Chevalier. Alevina, ça doit être 10 minutes après, qui a aussi une très belle occasion. Et malheureusement, comme on l'a dit, le problème, c'est que en tant que supporter et spectateur au stade, en fait, c'est l'envie qui manquait. Et on n'a pas eu l'impression que le SCO jouait pour gagner le match et jouait pour justement essayer de grappiller des points dans la course au maintien en Ligue 1. C'est pourtant de ça dont on a besoin. Et quand on voit le fait de jeu avec le carton rouge de Diakité à la 70e minute à peu près, on se dit que c'est là où justement le SCO va peut-être nous montrer l'envie. Alors, ok, il y a eu certaines velléités offensives, ils ont montré quelque chose, mais rien de réellement dangereux. Et c'est un peu dans l'impact qu'on a besoin de les voir un peu plus si on veut justement chercher à se maintenir.
On a vu des guerriers, hein, pourtant, notamment donc Florent Henin ou Jordan Lefort, surtout Jordan Lefort dans cette rencontre. Moi, j'étais au stade comme toi et j'ai une image en tête, parce que ça s'est passé à côté de moi aussi, mais c'est assez révélateur. C'est Jordan Lefort qui monte, qui arrive quasiment en position d'avant-centre et qui n'a personne à côté de lui. Et ça, c'est quand même assez révélateur. Encore une fois, on parle de l'envie. Peut-être aussi que le 4-2-3-1 ne fonctionne plus du côté d'Alexandre Dujeu, avec, on rappelle, 8 blessés. Est-ce que pour toi, c'est tactiquement, Amaury, que ça a piétiné pour
le sport dimanche? Je sais pas, tactiquement, parce que moi, sinon, j'ai pas pu voir le match, j'ai regardé que le résumé. Mais c'est surtout que perdre contre Lille, il y a rien de mal à perdre contre Lille quand on est le SCO. C'est une défaite qui est logique au vu du classement entre les deux équipes, au vu de la différence de talent. Maintenant, sans ce que vous dites, c'est vraiment un manque d'envie quand on est à 3-4 journées de la fin, qu'on joue son maintien. Je comprends pas ce manque d'envie, clairement. Je comprends pas que les joueurs puissent pas se donner comme ça a été le cas. En plus, au milieu de saison, on a vu cette très belle phase en janvier, en février, où le SCO allait chercher un bilan plus que positif. Il y avait plus de victoires que de défaites. Et en revenir à ce qu'on a vu en début de saison, parce que là c'est clairement ce que j'ai l'impression, c'est revoir le SCO qu'on avait vu. Moi j'avais vu le match à Copa contre Nice en début de saison où on perd 4-1 ou 4-0, je sais même plus.
4-1 il me semble.
Ouais. Mais on doit marquer en fin de match pour réduire le score. Mais j'ai l'impression de revoir ce SCO là qui donne pas d'émotion, qui surtout inquiète très peu les adversaires, excepté là sur des grosses erreurs adverses, parce qu'on a deux occasions qu'on devrait convertir, au moins la première, la deuxième un petit peu plus dure, mais au moins la première. Mais c'est sur des erreurs adverses, c'est rien qui est réellement provoqué par le SCO, même si il faut une erreur adverse souvent est provoquée aussi par un pressing, par toi. Mais c'est vrai que là c'est dur de voir le SCO aussi peu en avant, aussi qui va aussi peu vers l'avant et qui se donne aussi peu entre guillemets sur une fin de saison où l'enjeu est quand même capital.
C'est un SCO clairement apathique et pourtant c'est pas les individualités qui manquent, on l'a vu sur le match encore une fois, le Paul souvent esselé là aussi en attaque, mais qui propose des choses intéressantes, qui derrière s'il avait un petit peu de soutien pourrait aussi faire des choses intéressantes. C'est peut-être dû aussi au fait qu'Abdelli redescend un petit peu plus bas aujourd'hui pour faire son pressing, et puis c'est pas non plus quelqu'un qui là en tout cas sur les derniers matchs montré une envie certaine. Peut-être qu'il y a la notion d'un certain départ aussi dans la tête d'Imad Abdelli. Qu'est-ce que toi tu en penses, Paulin? Est-ce qu'aujourd'hui Abdelli a le regard tourné ailleurs, ou encore une fois il se focus peut-être sur la fin de sa dernière potentielle saison au SCO?
En tout cas, moi j'ai des souvenirs de la saison dernière où Abdelli, il avait quand même tout le temps cette rage de gagner, et surtout un petit peu cette cohésion avec le public, où c'est aussi lui qui allait les chercher, qui montrait qu'il avait envie et qui voulait que ça fasse du bruit. Et je peux me tromper, peut-être que toi t'as vu un moment des joueurs du SCO aller un petit peu chercher cette foule là mais en tout cas moi en deuxième mi-temps, quand on est à 11 contre 10 et qu'on gagne plusieurs corners, j'ai pas ce souvenir d'avoir des joueurs qui cherchent à justement amener le public avec eux, demander le bruit de la foule. Pourtant Abdelli, c'était notamment un de ces joueurs-là qui arrivait justement à porter son équipe et à amener le public avec lui. Donc, je pense que tu peux avoir raison. Il peut être peut-être avoir la tête vers un départ, mais il n'empêche que je pense qu'il estime le SCO et qu'il fera tout dans cette fin de saison pour essayer de participer au maintien de cette équipe.
On l'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'après le carton rouge, la réaction, elle a pas du tout été présente, et c'est assez dommage. Alors pour le coup, on parlait d'envie. Moi, il y a un joueur quand même qui est rentré. Alors c'est un jeune, donc encore une fois, forcément, c'est pas le facteur X.
Et on sait que t'adores beaucoup les jeunes joueurs.
Voilà, bien évidemment. Donc je l'ai scruté un petit peu de plus près, surtout que c'est un joueur que j'avais déjà vu quand j'avais été voir la 2 du SCO en N3. C'est Prosper Peter qui est rentré, qui a fait une entrée assez intéressante, qui a réussi à chipper quelques ballons, qui a été plutôt imprécis techniquement à certains moments, notamment lors de la dernière action où je crois le SCO tire 4 fois, 3 fois sur Chevalier si je dis pas de bêtises, et une fois à côté, le tir à côté c'est Peter. Mais il y avait quand même cette envie là, cette fougue de la jeunesse, et je pense que on a quand même de quoi être fier à Angers d'avoir ces jeunes-là qui essaient de mouiller le maillot. C'est dans une logique aussi de formation, hein. Logiquement, c'est des joueurs qui doivent se montrer, évidemment, mais n'empêche, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des perspectives quand même pour se sauver quand on voit cette profondeur d'effectifs limitée, ces joueurs blessés, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait venir. En tout cas, on a quand même envie d'y croire, Amaury.
Bah oui, clairement, parce que aujourd'hui, si le SCO va déjà gagner un match sur les 3 derniers, il y a au minimum, je pense, un barrage. Si on gagne un match sur les 3 derniers, au minimum un barrage.
Mais pas assuré.
Non.
Comptablement, c'est pas assuré.
Non, évidemment. Mais je pense que par rapport aux rencontres qui restent, les équipes derrière sont pas des équipes qui tournent non plus au point d'aller gagner leurs 3 derniers matchs. Donc je pense qu'une victoire peut suffire pour au moins aller chercher le barrage. Maintenant, ce match contre Nantes qui arrive, il est important dans le sens où... c'est une équipe déjà qui a pas beaucoup de points de plus que j'ai le classement en plus devant moi.
Non, c'est pas.
Il y a 2 points d'avance sur Angers, mais ça permettrait de passer devant Nantes en les battant. Et c'est surtout, c'est une équipe qui est sur courant alternatif. On a vu ce week-end, alors ils prennent un point contre Toulouse, mais ils ont été sifflés par leur public parce que Toulouse est un de moins aussi pendant très longtemps, et Nantes n'est pas allé les chercher. Et un peu le même constat qu'on peut faire avec Angers. Pas énormément d'envie pour des équipes qui jouent le bas de tableau, c'est dur de comprendre. Par Toulouse en face, qui met moins d'envie, Toulouse n'a plus grand chose à jouer. C'est une fin de saison, c'est tous les ans comme ça, c'est 3-4 derniers matchs quand on n'a rien à jouer, ni l'Europe ni le maintien. C'est souvent Nantes, Angers, c'est là où je ne comprends pas. Donc c'est un match qui est extrêmement important face à une équipe qui est inconstante. Je vois, ça a fait match nul contre Paris, bon, Paris qui préparait aussi des matchs importants, mais avant ça a perdu contre le Havre, mais ça a battu Nice, donc c'est difficile de comprendre la situation actuelle à Nantes. Maintenant c'est un match qu'il faudra absolument aller prendre.
Nantes qui tourne aussi avec des profils qui sont pas du tout des joueurs à jouer le maintien. Forcément, on pense à Moses Simon, mais il y en a d'autres, hein, Mathis Sablin pour ne citer que lui.
Mais c'est des joueurs qui savent qu'ils vont partir si jamais il devait y avoir une descente. Hein.
C'est ça, mais vraisemblablement du côté de Nantes, est-ce qu'on aura une descente? Sans doute pas, mais pour eux ça se joue aussi contre Angers. C'est une petite finale entre deux équipes quand même qui pourraient potentiellement jouer les barrages, qui en plus pourraient jouer des barrages contre Metz. Je pense que Metz, ça reste le favori potentiel des barrages en Ligue 2. C'est une équipe aussi qui est intéressante, qui là aussi fait souvent l'ascenseur, mais qui a les capacités pour jouer, évoluer et faire de belles choses en Ligue 1, notamment par sa formation qu'on connaît bien sûr. Donc finale, et derrière on reçoit Strasbourg. Est-ce qu'on peut vraiment espérer quelque chose contre Strasbourg, puis contre Lyon, dernier match à Lyon en plus, dernier match potentiel d'Alexandre Lacazette par exemple. Là aussi il va y avoir une forte symbolique, mais pour revenir sur Strasbourg, est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre Strasbourg? Ça paraît compliqué.
Après, on les bon, c'était pas le même match. On les a battus en Coupe de France. Peut-être que dans les têtes, ça peut aider. C'est-à-dire que c'était pas, ce sera peut-être pas forcément les mêmes 11, on le sait. C'est la Coupe de France. Ils avaient fait jouer le jeune, là, Ryan Messi, je crois qu'il s'appelle, qui est assez prometteur à Strasbourg. Bon, voilà, ils vont jouer avec les joueurs parce que eux aussi, Strasbourg, ils ont des choses à jouer. C'est peut-être ça aussi qui peut être dangereux pour le SCO. C'est que Strasbourg, ça va chercher à rejoindre les places pour l'Europe. Et bon, bah, ils vont peut-être pas laisser et pas faire de cadeaux au SCO. Mais en tout cas, moi, je peux y croire. On va dire, il faut y croire. Il faut juste que du côté des joueurs, on sente cette envie-là. Mais c'est un match. Franchement, ils peuvent le faire déjà contre Nantes. Je pense que c'est possible d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un résultat à la Beaujoire. Et après, j'espère que, en tout cas, le public répondra présent à Copa contre Strasbourg s'il faut aller chercher quelque chose.
Tu te rappelles de la dernière défaite de Strasbourg ou pas?
Non, parce que
c'est Angers.
Ça doit pas faire longtemps,
c'est,
ouais.
C'est Angers, ouais. La dernière défaite de Strasbourg. Angers
compétition
en Coupe de France. Ouais, toute compétition confondue. Ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Ils ont fait deux matchs nuls dernièrement contre Monaco et contre Nice, donc c'est pas quand même des mauvais résultats. Et ils ont fait un match nul contre Brest, ça remonte à fin février. Sinon, c'est que des victoires depuis c'est quasiment la meilleure dynamique de Ligue 1.
Oui.
Avec le PSG, même si Paris a perdu ce week-end, mais c'est anecdotique. C'est quasiment la meilleure dynamique de Ligue 1 autrement à Strasbourg. Donc c'est vrai que ça va être compliqué, sachant que Strasbourg affronte le PSG ce week-end dans un match pour Paris qui est compliqué, car c'est entre les deux rencontres de Ligue des Champions, mais où Strasbourg risque quand même de perdre des points, parce que je suis pas sûr que Paris a envie de perdre deux matchs de suite en Ligue 1. Donc Strasbourg aura absolument besoin de prendre des points sur ce match face à Angers. Donc, pour moi, je pense que ça va être très compliqué.
Et engranger de la confiance face à Paris aussi, et dans tous les cas, la dynamique sera potentiellement
oui, voilà, dans
la
tous
même.
Les, dans tous les cas, ça sera. Et voilà, si ça gagne contre Paris, Strasbourg aura vraiment quelque chose à jouer sur cette fin de championnat. Parce qu'il y a des équipes au-dessus qui s'affrontent, Lille et Marseille s'affrontent, il y a aussi Monaco et Lyon.
Et Lyon, ouais,
qui s'affrontent, donc il y a des équipes qui vont perdre des points évidemment. Donc Strasbourg, vu comment c'est serré, ils peuvent jouer une place en Ligue des Champions encore s'ils venaient à battre Paris. Donc. Dans tous les cas, pour Angers, ce sera compliqué face à Strasbourg.
Mouchoir de poche, donc, qui oblige les Angevins à faire quelque chose face à Nantes. Forcément, on va avoir un regard attentif sur cette rencontre. Est-ce que pour vous, il y a un facteur X qui pourrait créer quelque chose où il faut vraiment que tout le monde soit concentré, tout le monde soit dans une dynamique de groupe, de vraie finale, parce que ça en est une véritablement.
Bah pour moi, c'est ça le facteur X. C'est est-ce que le SCO va y mettre l'intensité, va y mettre l'envie qu'un club a besoin sur une fin de saison comme ça, à trois journées de la fin, quand il faut absolument gagner un match. C'est le facteur X, il est là. C'est pas parce qu'ils font ça qu'ils iront gagner le match, parce que Nantes, j'espère pour les supporters nantais et pour Nantes, ils vont faire la même chose. Mais en tout cas, si à ce moment-là de l'année, t'es pas capable de faire ça, t'as pas grand chose à faire à rester en Ligue 1. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont le faire. J'ai envie de voir le SCO en Ligue 1 quand même.
Il y a quelques éléments qui peuvent, dans le match contre Lille, nous faire dire que le SCO pourrait se maintenir, parce que l'assise défensive a quand même été plutôt intéressante. Il y a quand même des choses à garder de ce match qui est peut-être le pire de la saison. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. On va passer aux actualités internationales juste après la pause musicale. On s'écoute tout de suite Ocean Sound de Larry June avec The Alchemist sur le 101.5 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Sport.
Pretty brown skin, body of a goddess, smelling so good, really my type. I've been searching around, but still ain't found real love.
I put up on that, I'm told it like that.
I got a couple girls I'm talking to, I'm trying to narrow down, hitting it from the hearing ocean sounds. Took the Corvette to Half Moon Bay, it's foggy out. Grabbed the green tea, after that, brought the Porsche out. I let her rock my hoodie real quick, she felt the ocean breeze. Dropped her right back at the crib, then back count G's. $250,000 in 20s, we gon' need machine. Nigga, this the 63S, not the 43, what's happening? I've been searching around, but still ain't found real love. Way to the top, but still ain't found real love. But I'm happy because for the first time in my life, I feel I found real love. I found real love. But I'm happy because for the first time in my life, I feel I found real love.
Is when you happy with yourself. Fuck when niggas talk. When shit got tough, I adjusted. And
smarter. I ain't got no hard feelings, love. You can keep walking. I appreciate all that you done, but this not working. Think I need another vacation. Might hit London, about to cop another location. I've been on the hunt, I ain't got no one to lean on, so I'm working dark. When I got good with myself, that's when I found love was happening. I've been searching the brown, but still ain't found real love. Made my way to the top, but still ain't found real love. But I'm happy because for the first time in my life, I feel I found real love. I found real love. But I'm happy because for the first time in my life, I feel I found real love. I found real love. It's just something about it.
Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Sport sur le 101.5 FM. On écoutait Ocean Sound de Larry June et The Alchemist. On parlait également des actualités locales. On en a fini avec le biais départemental et régional. Et on va se concentrer maintenant sur forcément la grosse actualité sportive du jour, du soir même, puisque dans une trentaine de minutes, le PSG se déplace à Londres, Emirates Stadium, pour une demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal. Les hommes de Luis Enrique qui vont tenter de prendre une option pour la finale dans cette première bataille contre les coéquipiers de William Saliba. Deux équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions pour un seul ticket. Amaury, je me tourne vers toi. Qui est le favori ce soir?
50-50, j'ai envie de te dire.
Ouais.
J'ai envie de te dire 50-50, en tout cas sur la double confrontation. Moi, je vois une affiche très, très, très équilibrée. C'est compliqué vraiment de ressortir une équipe. Ils ont des forces qui sont différentes, ils ont des formes qui sont différentes, mais je suis pas sûr qu'il faille vraiment s'attarder sur les formes actuelles des clubs sur des demi-finales de Ligue des Champions, que ce soit pour ce match-là ou l'autre match avec l'Inter Milan et le Barça. Je pense que c'est tellement des matchs à part, des événements à part et qui vont au-delà de tout ce qui se passe à côté pour le club, qu'il faut pas forcément s'attarder sur ça. Donc c'est pas parce que le PSG a perdu ce week-end, a fait un match nul le week-end d'avant, a fait une deuxième mi-temps moins bonne contre Aston Villa, qu'il faut oublier ce que tout le PSG fait depuis janvier, j'ai envie de dire. Paris sera bon ce soir, Paris sera bon sur la double confrontation. Maintenant, on a en face une équipe qui a quand même éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions. Une équipe qui, même si elle sera pas championne d'Angleterre, hein, c'est Liverpool qui a un petit peu moins performé en Première Ligue que l'année dernière, performe quand même. Et à très fin, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas atteint un stade-là de la compétition. Ils ont un entraîneur jeune qui a des idées, qui les met en place et qui les met bien en place. Ça va être une rencontre pour moi qui est équilibrée, je ne répondrai pas à ta question.
Ah, puis c'est l'équipe qui a beaucoup à prouver aussi, je pense, avec tout ce qui s'est passé, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions sur les années précédentes. Forcément, là, on se dit c'est peut-être le moment ou jamais. Alors après, le fait d'éliminer le Real Madrid,
c'était presque l'équipe la plus faible des quarts de finale sur ce qu'ils ont proposé.
Honnêtement, je pense qu'on n'en est pas loin. Ouais.
Voilà, mais ça reste le Real Madrid et
en Ligue des Champions,
c'est sûr.
Et faire ça au Bernabéu, bah il y a des équipes qui l'auraient pas fait parce que Real Madrid a égalisé.
Non, pas du tout.
Non.
Arsenal a mené. Ah. Après, il y a eu le but justement
offert par
Saliba.
2-0, 2-1. Oui, c'est au Vinicius, c'est marqué 2-1. Ouais. Donc non, mais quand même, mais faire ça à Madrid, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait malgré la faiblesse du Real cette année.
Bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que Arsenal, c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe encore une fois qui a plein de choses à prouver et qui avec cette nouvelle génération se veut justement pourquoi pas en grand vainqueur. En tout cas, c'est une équipe qui a le potentiel largement, qui a surtout le potentiel pour contrer le Paris Saint-Germain. On parle souvent de la défense puisque c'est la deuxième année consécutive qu'Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue. C'est la deuxième meilleure défense également de Ligue des Champions derrière l'Inter. On a un grand absent pourtant, Gabriel. Mais est-ce que Paulin, pour toi, c'est quelque chose qui peut faire la différence quand même, cette défense d'Arsenal que le Real n'a pas réussi à faire céder?
Ah oui, tout à fait. Hein. Ça peut faire la différence. Après, tu l'as dit, il y a l'absence de Gabriel qui est quand même peut-être le joueur avec le plus de leadership dans cette équipe. Ça peut leur manquer aussi. Là, celui qui le remplace, c'est Jacob Kivior, qui franchement, dans le rôle qu'il a pris, eh ben c'est des choses plutôt positives en tout cas de ce qu'il a pu montrer, et notamment contre le Real Madrid. Après, ouais, je pense que défensivement, Arsenal, ils vont être en place, mais moi, la qualité offensive de ce Paris Saint-Germain-là, enfin, je pense que, ouais, ils peuvent aller les chercher, et en tout cas, je suis quasiment sûr et certain que Paris marquera dans la double confrontation dans les deux matchs.
Est-ce que justement la différence entre le PSG Arsenal et plus globalement Arsenal et un Barça par exemple, c'est, alors j'ai pas envie de minimiser encore une fois les performances de Saka qui revient de blessure, qui a été très bon contre Madrid mais qui revient de blessure encore une fois, est-ce que c'est pas ce manque pourquoi pas de facteur X dans le jeu réellement comme peut l'être Dembélé qui après quelques dribbles va venir pourquoi pas finir, on l'a vu beaucoup faire ça en cette deuxième moitié de saison, est-ce que c'est pas ça aussi quelque chose qui peut faire la différence du côté du PSG face à ce bloc qui semble impénétrable, Amaury.
Bah, si tu me demandes qui a le plus de talent offensif entre les deux, il y a, c'est sûr, Paris a bien plus de talent, a des joueurs qui sont peut-être capables de faire plus des différences seuls. Maintenant, quand je regarde Arsenal, je vois aussi une équipe qui a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Une équipe qui est très très réaliste, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions hein, face au Real. Bon, on a eu en plus ces deux coups francs de Declan Rice. J'en reviendrai après sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal. Mais Paris a ses joueurs, mais aussi Paris a des matchs où, on l'a vu en Ligue 1 là, ils sont capables de pas être efficaces devant le but. Donc en fait, je pense que Paris sera plus capable de s'offrir des situations qu'Arsenal. Maintenant, il faudra que Paris mette ses occasions parce que ça a été un petit peu leur péché mignon depuis le début de l'année. Même si on a eu cette très grande phase où là ils ont été surdominants et tout rentrait. Oula, excusez-moi. Quand je disais genre je revenais d'un petit rhume, c'était bien le cas.
Je pardonne,
mais
oui.
Mais voilà, je pense que ça va être la finition va jouer un rôle très important du côté du Paris Saint-Germain qui va se procurer des occasions, c'est sûr. Maintenant, il faudra les mettre au fond.
Justement, ça va être un beau duel de tactique à tous les étages aussi, parce qu'on a forcément des lignes qui vont se confronter, hein, des charnières solides, et puis surtout un milieu de terrain qui va être vraiment intéressant, savoir qui va prendre le dessus sur qui. Je me tourne vers toi, Paulin, est-ce que tu vois Paris avoir la possession à Londres ce soir?
Oui, je pense. Alors après, c'est une question compliquée, franchement.
Ouais, c'est pas facile. Hein.
Non, mais c'est surtout que quand tu vois, on va parler des rencontres en Ligue des Champions qu'a fait Paris, parce que Paris ils se sont déplacés deux fois en Angleterre et contre Liverpool et contre les Villans. On a vu au match retour que contre les Villans que l'ambiance en Angleterre elle était assez hostile et c'était pas facile parce qu'ils se sont fait bousculer. Mais forcément, c'était pas le même match, c'était pas la même alchimie. Et puis les Villans, fallait qu'ils fassent quelque chose. Après contre Liverpool, on a vu ce qu'ils ont fait là-bas. Franchement, ils ont été impressionnants. Ils ont été impressionnants.
C'est le match référence de Paris.
Ah bah oui,
ils ont été. Non, mais ils sont en Ligue des Champions.
Même la première mi-temps.
Sur les 5 dernières années.
Non, mais ce qu'ils font, offensivement, comment ils gardent le pied sur le ballon. Et en plus, ils nous l'avaient montré déjà au match aller. Le match aller, on sait qu'ils n'ont pas concrétisé les occasions alors qu'ils en ont eu tellement. Qui aura la possession? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, l'équipe qui peut être, déjà on sait aussi la qualité de Paris dans le pressing et dans le contre-pressing qui est notamment emmené par un Ousmane Dembélé qui le fait très très bien et qui est d'ailleurs félicité pour ses efforts, et c'est notamment Luis Enrique qui le met beaucoup en avant là-dessus. Après tu parles du duel au milieu de terrain et ce duel au milieu de terrain, je trouve qu'il est hyper intéressant dans le sens où d'un côté tu vas avoir Declan Rice, Martin Odegaard, et là donc c'est Merino qui va jouer ce rôle au milieu et qui sera pas sur le flanc de l'attaque comme il a pu l'être, mais bon, on rappelle que du coup là il va revenir dans son vrai rôle, dans son rôle naturel.
Donc et Merino titulaire au milieu de terrain, ouais. et pas Jorginho
parce que Jorginho est blessé, donc du coup c'est Merino qui est titularisé et le milieu parisien, franchement on sait de quoi ils sont capables et franchement j'ai aucun doute sur les performances de Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, les trois. Je pense qu'ils ont déjà montré de très belles choses, et Vitinha, bon, il a un peu été mis en porte-à-faux notamment aussi sur le retour, sa performance sur le match retour face à Villa, mais te dire qui aura la possession, je sais pas. Moi en tout cas, juste en termes de fan de foot, je sais juste que je vais me régaler, je pense, devant une opposition, une telle opposition en fait en termes de football, quoi.
Et moi, juste avant de revenir, je voulais parler un petit peu des coups de pied arrêtés d'Arsenal, mais juste avant, j'étais en train de regarder, et au niveau des blessés, le Paris Saint-Germain n'en a pas, vraiment, il n'y a personne qui est vraiment absent. Du côté d'Arsenal, on a Thomas Partey, donc lui qui est suspendu.
Tomiyasu.
On a Tomiyasu qui est absent, on a Kai Havertz qui est absent, on a Jorginho qui est absent, on a Gabriel Jesus qui est absent, Calafiori qui est absent. Ça fait du monde du côté d'Arsenal qui n'est pas là, donc ils doivent aussi composer avec ça. Donc à Paris aussi d'en profiter, d'avoir toutes ses forces en présence. Voilà. Maintenant, ce que je te disais avant, juste les coups de pied arrêtés. Quand on regarde Arsenal, j'ai regardé plusieurs matchs de Première Ligue, ils marquent un match sur deux minimum sur coup de pied arrêté.
C'est
monstrueux. J'avais vu un petit reportage dessus. Ils ont quelqu'un dans le staff technique qui bosse que là-dessus, vraiment que là-dessus, qui prépare ça et qui a déjà pu être dans quel club en seconde division anglaise, et c'était déjà le cas.
C'est un Français, hein. C'est Nicolas Jauvert. Ouais, il s'appelle, je crois. Lui, du coup, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal.
J'ai vu ça. Déjà, dans les clubs auxquels il était avant, c'est à chaque fois, les coups de pied arrêtés étaient exceptionnels. Et Paris, de son côté, peut être un peu friable sur ces situations. Par moment, ça leur arrive. Donc, attention vraiment de ce point de vue-là. On aura besoin d'un grand Donnarumma. Je le répète avant chaque match du PSG en Ligue des Champions. Il a été bon sur les deux derniers tours. Il a permis, face à Liverpool, de garder sa cage, pas inviolée, mais... Je me rappelle plus du match retour, du nombre de buts. Mais il a fait un bon match retour, en tout cas contre Liverpool. Contre Aston Villa, au moment où ça a été très très chaud, il sort une à deux parades qui sauvent un peu le PSG. Donc on aura besoin d'un Donnarumma comme ça pour que Paris passe aussi.
C'est ça qui est intéressant aussi à mettre en perspective aussi avec l'Inter de Milan. Tu parles des coups de pied arrêtés, forcément, c'est ça aussi tout l'intérêt de cette double confrontation également et de ces deux rencontres, ces deux demi-finales, parce qu'on a sans doute les deux meilleures équipes d'Europe sur les coups de pied arrêtés. Paris a été faible et on verra ce que ça donnera ce soir. Le Bayern a été faible contre l'Inter. Ça n'est pas passé, c'est aussi un questionnement pour le Barça. On va y revenir juste après de cette rencontre du FC Barcelone. Mais avant de finir, forcément, on va demander ton pronostic, Paulin, qu'on n'a pas demandé. À Maury, on a eu le tien, c'est du 50-50. Pour toi, ce soir, hein, on ne parle pas sur la double confrontation, même si tu peux t'étaler, Paulin, on t'y autorise.
Je vais aller faire le prono après, quand même.
Et ben, on va faire le tour de table et je donnerai le mien pour finir et puis pour faire la transition sur le match de l'Inter face au Barça, ou plutôt du Barça face à l'Inter. Paulin, c'est à toi ton pronostic.
Bah, Amoury, il a dit 50-50. Moi, ce que je vais dire, du coup, c'est un peu ça, parce que pour moi, ce soir, je vois un partout. Je vois un match nul, parce que, de par la prestation d'Arsenal, je pense que, en tout cas, peu de personnes, ou du moins, il y avait tout le monde avait un peu de mal à se positionner, surtout du fait qu'Arsenal a quand même mis 3-0 au Real Madrid, puis est allé gagner au Bernabéu. Alors, même si on est tous d'accord, c'est pas le même Real cette année, la performance d'Arsenal, elle est quand même très belle, et, bah en fait ça leur donne un peu cet élan pour se dire bah ouais en fait ouais ils peuvent être considérés comme des favoris pour la gagner cette LDC. Mais ce soir je pense que franchement si Paris fait un nul, un partout, deux partout, tout ce que vous voulez, juste ils font un nul là-bas, c'est déjà très beau. Et bon s'ils arrivent à gagner, c'est encore mieux, mais après tu joues au Parc des Princes, on sait l'ambiance qu'il y a au Parc des Princes. Franchement ça peut être exceptionnel devant son public d'aller chercher la victoire, et je pense forcément qu'ils vont avoir plus de chances de gagner au Parc que de gagner ce soir à l'Emirates.
Amoury.
Victoire 2-1 d'Arsenal là, match retour, victoire de Paris, ça va au tir au but. Et après, je donne pas le gagnant.
Oh là là là.
C'est
le gagnant, non?
Je donne pas le gagnant.
Ah, d'accord.
On signe totalement. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Paulin, face à ce que peut faire Paris sur cette double confrontation, parce que même si Paris souffre à Arsenal, derrière, on peut activer ce levier qu'on a déjà vu cette saison face à Liverpool. Alors, il n'avait pas souffert au match aller, mais il y a quand même cette logique de rebondir et de venir s'imposer quand même au final. Et puis il y a aussi le fait, pourquoi pas, de faire douter Arsenal, qui n'a pas douté face au Real. En fait, les seuls doutes qu'on a vu d'Arsenal face au Real Madrid, c'était dans la presse entre les deux matchs. Donc voilà, mais Arsenal n'a pas douté
parce que c'est le Real, mais finalement
exactement. Et au final, il s'est rien passé et c'était plutôt prévisible quand on prend juste l'aspect sportif et qu'on enlève tout ce qu'il y a autour, l'aura du Real Madrid. Donc le Paris Saint-Germain dans ces deux cas peut être le vainqueur du soir. Maintenant, ça reste dangereux, ça reste un déplacement en Angleterre. Moi, je pense pas que Paris va perdre ce soir. Je pense que Paris peut encore une fois nous sortir des matchs références à l'extérieur. On a largement les capacités. Moi, je vois bien comme Paulin a dit, un partout. C'était mon prono d'avant-match que j'ai fait aussi avec un pote juste avant, un partout. Je pense que c'est le match le résultat le plus cohérent. 1-0 Arsenal serait pas forcément une défaite pour le Paris Saint-Germain, honnêtement, avec ce match retour au Parc des Princes. On verra bien ce qui se passera là-bas, mais en tout cas ça va nous permettre de savoir, comme ça a pu être le cas entre Arsenal et le Real, même si on avait quand même les dynamiques précédentes des deux clubs, mais pour essayer de dégager, pourquoi pas, un léger favori, peut-être un plus 5% dans nos pronostics, on verra ça. En tout cas,
je reviens juste, tu viens de dire, le 1-0 pour Arsenal, je pense pas que ce sera un si bon résultat pour Paris, parce que au vu du jeu de Paris, je pense qu'ils ont besoin de marquer pour se rassurer aussi face à Arsenal.
C'est... Peut-être, mais en tout cas, une courte défaite.
Oui, en tout cas,
tellement,
défaite d'un but, ça, rien n'est joué, tu vois, mon prono. Je t'ai dit défaite d'un but ce soir, après, ça, Paris gagne au retour. Mais je pense que Paris ne marque pas et but face à la défense clairement d'Arsenal, ça peut vraiment les faire douter en vue du match retour.
Ouais, après regarde contre Liverpool au final, t'as vu ils perdent 1-0 avec un but de Deliot qui c'est volé, tu vois, t'as vu le match, enfin vous voyez le match qu'ils font, c'est exceptionnel. Ouais. Et ils arrivent à réagir derrière, alors c'est pas les mêmes équipes,
ouais, complètement,
mais oui je pense que
mais et parce qu'au match retour ils ont aussi marqué vite, ça a permis d'enlever les doutes contre Liverpool. Si tu venais à pas marquer ce soir et qu'au match retour ça commençait à traîner, je pense que ça pourrait très vite devenir compliqué. Donc si tu pouvais, même si tu perds marquer ce soir, je pense que ce serait, c'est important pour Paris.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Amaury. On verra ça dans tous les cas dans 20 minutes maintenant. L'échéance arrive pour le Paris Saint-Germain. Demain c'est le Barça qui reçoit l'Inter de Milan à Montjuïc. Face à face, donc entre deux clubs historiques de la Ligue des Champions, 5 LDC pour le Barça, 3 pour l'Inter, et pourtant aucune de ces deux équipes n'a inscrit son nom sur le palmarès de la Coupe aux Grandes Oreilles depuis 10 ans maintenant. Le Barça qui vient de sortir victorieux donc de la Copa del Rey face au Real Madrid, confiant, leader de Liga, favori, faisant presque office de meilleure équipe du monde, pourquoi pas, on va pouvoir débattre de ça aussi. Attention, ceci dit, au match piège contre l'Inter, hein, au parcours cohérent, aux performances linéaires en Ligue des Champions depuis quelques années, mais qui marque un vrai coup d'arrêt en championnat, qui reste sur deux défaites, donc contre la Roma ce week-end et contre Bologne juste avant. Le Napoli donc reprend la tête de la Serie A, défaite 3-0 aussi lors de la demi-finale retour de Coupe d'Italie par l'AC Milan, mais qui a su sortir le Bayern avec conviction. Ma question, donc, c'est la suivante. Est-ce que l'Inter peut le faire ce soir? Est-ce que le Barça peut tomber dans le piège d'Inzaghi? Amaury, qu'est-ce que tu en dis?
Le Barça est favori.
Forcément.
Si tout à l'heure, tu me demandais 50-50, là, le Barça est favori. Maintenant, c'est vrai que le jeu de l'Inter peut mettre à mal le Barça, je pense. Peut les empêcher de produire vraiment le jeu qu'ils aiment produire. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu surtout les matchs de l'Inter en Ligue des Champions, donc je pourrais pas parler non plus. J'ai un peu plus vu le Barça, notamment sur le dernier match qui a dû plaire vachement à Paulin.
On a
peut-être tous regardé ici, je sais pas. Mais t'as regardé, Mathéo?
Je l'ai regardé un petit peu, ouais. Il y avait Lyon en même temps.
Ah,
quand même.
Le Barça est favori évidemment. Le Barça va avoir le ballon largement. L'Inter va procéder en contre. L'Inter n'a pas Marcus Thuram. Et Marcus Thuram avec
questionnement d'avant match. Hein.
Ouais. Peut-être qu'il pourrait être là.
Ouais. Il y a ce questionnement là.
Je pense que ça va jouer énormément pour l'Inter parce que Marcus Thuram, ça marche très bien avec Martinez en attaque. Ça lui permet de tourner autour. Ça permet. Il est très esselé quand Thuram est pas là. Derrière, les joueurs sont un cran en dessous quand même quand on doit remplacer l'un des deux attaquants. Donc ça va jouer énormément. Maintenant, moi, je vois le Barça s'imposer quand même au match aller et au match retour.
Donc deux victoires du FC Barcelone face
pas
à l'Inter.
Peut-être deux courtes victoires, mais deux victoires du Barça.
Ok. Qui reste, on rappelle quand même, la meilleure défense de Ligue des Champions, qui a encaissé que deux buts lors de la phase régulière aussi. Paulin, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses que vraiment le verrou peut céder dès ce soir face à la tactique d'Inzaghi, qu'il a mis du temps à roder, hein, on rappelle, mais qui sur les dernières années fonctionne très bien. Les éliminations assez tôt parfois de l'Inter étant dues forcément à des beaux opposants. Donc est-ce que ce soir le Barça peut le faire concrètement dès ce soir?
Oui, tu dis demain soir, mais oui,
dès demain soir.
Déjà, quand on parle du Barça, je suis pas forcément le plus objectif, mais oui, pour moi, ils sont favoris. Et en fait, je pense que j'ai regardé pas forcément la totalité, mais beaucoup de leurs matchs et juste le football proposé, le jeu, le collectif, Pedri. Moi, je le mets sur un piédestal parce que juste le niveau il est exceptionnel. De toute façon, tout le monde.
Meilleur milieu en ce moment.
Non, mais tout le monde s'accorde à le dire.
Meilleur joueur, on n'est pas loin.
C'est ça. À partir du moment où tout le monde, je veux dire, n'importe quel fan de foot, estime Pedri comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le meilleur milieu actuellement, déjà, ça joue. Sa capacité à gérer le tempo du match, c'est quelque chose qu'il fait de manière exceptionnelle. Et bon, on l'a dit et tu l'avais dit, Amaury, de toute façon c'est une demi de LDC, donc comme tu dis, l'Inter, là ils sont sur 3 défaites de suite, je parle coupe et championnat confondu, mais forcément la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. C'est juste que au niveau de ce que je vois, et par contre J'ai pas forcément beaucoup vu l'Inter jouer. J'ai vu beaucoup de leurs matchs. La plupart de leurs matchs en Ligue des Champions, je les ai moins vus en Serie A. Mais par rapport à ce que moi j'ai pu voir du FC Barcelone, et rien que le match qu'ils font en Copa del Rey, qui à mon avis aussi te donne des ailes quand tu fais un match comme ça, que tu gagnes 1-0 derrière.
Et en plus avec tout ce qui s'est passé à côté. C'est...
Et puis oui, tout ce qui s'est passé avec le comportement des joueurs du Real, qui bon bref, ça on en parlera peut-être plus tard. Mais enfin ouais, franchement, voilà, t'es mené 2-1. Tu vas égaliser avec Ferran Torres parce que Lewandowski est blessé. Lewandowski sera pas là contre l'Inter. C'est quand même un point déjà assez important quand
sur,
on sait
sur les deux matchs.
Que c'est. Les deux matchs, je sais pas parce que normalement sa blessure c'était aux alentours de 2 semaines. Donc faudra voir si le match retour il peut être présent. En tout cas demain normalement il sera pas là.
C'est un point aussi important. Il y a Thuram en face, mais Lewandowski c'est important aussi pour le Barça.
Mais ce que montre Ferran, en tout cas moi me met aussi en confiance. Et puis là tu te mets en confiance quand tu marques face au Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Derrière tu vas la chercher en prolongation avec Jules Koundé, frappe en dehors de la surface. Enfin c'est
Il en a mis des buts cette année, Koundé.
Oui, et puis en coupe du Roi, il en met pas mal. Il en met contre le Bétis. Il fait un match exceptionnel contre le Bétis où il en met deux, mais qui est un qui est refusé. Ah, malheureusement, oui. Ça se joue à rien. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment. Moi, je les vois favoris, mais je vais pas sous-estimer l'Inter parce que l'Inter, enfin, je veux dire, tu l'as toi-même dit, le verrou défensif que c'est et le jeu, enfin, le dispositif d'Inzaghi et cette espèce de jeu dans la latéralité qui dépend aussi beaucoup des pistons. Faut voir comment le Barça peut s'adapter à ça. En tous les cas, de ce que moi j'ai vu du Barça, je pense qu'ils vont aller en finale.
Le terrain du Barça est très large, on est d'accord.
À Montjuïc, ouais.
Ça peut avantager le Barça face au système défensif de l'Inter, je pense.
Pourquoi pas? Ça veut dire que les pistons sont plus à droite ou à gauche et que derrière il y a plus d'ouverture.
Ça permet d'étirer un petit peu plus un système défensif qui est aussi rodé que l'Inter. Si tu peux l'étirer encore plus, ça peut que te faire du bien, je pense.
Après, je pense que ouais, ça peut être intéressant, mais c'est peut-être un détail aussi.
Oui, évidemment, mais
pourquoi pas?
Moi, quand je me dis que ça peut faire un petit truc en plus.
On verra si t'as raison.
Alors là,
franchement, on dira bravo, chapeau à Mori.
Le but de Yamal qui part de la ligne et qui profite de l'appel côté droit parce qu'avec le terrain plus large, il revient, il enroule, ça va au but, tu vois.
Et pourquoi
il
pas.
Est annoncé.
On prend les paris dès aujourd'hui. Non, c'est vrai que plus largement, le Barça arrive avec un état d'esprit de confiance, très clairement. Maintenant, est-ce que aujourd'hui le Barça n'a pas manqué de matchs référence en Ligue des Champions cette saison? Je veux dire, tu sors le Benfica, sors Dortmund en phase de poule. Il n'y a pas vraiment un tirage qui est difficile. Donc derrière, tu t'es pas vraiment fait bousculer. T'as des matchs référence contre le Real, mais encore une fois, c'est le Real. Alors c'est le Real en Espagne, donc ça reste quand même très bien, ça reste pertinent. C'est une grosse équipe. On sait pas de quoi c'est capable. Et puis même au début de saison, on savait pas du tout que le Real allait être comme ça. Donc encore une fois, t'es allé chercher des matchs au mental. Mais est-ce que là, en Ligue des Champions, le fait de te faire bousculer par des vieux briscards aussi, hein, c'est ça. Hein, L'Inter, c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue des Champions cette année. Ouais, c'est un joueur élite par ligne. C'est une tactique bien rodée. Donc est-ce que c'est pas le match piège par dépit pour le Barça demain soir?
Après moi, il y a un match que je considère comme un match référence aussi du Barça, c'est le 4-1 face au Bayern. Même si, bon, c'est pareil, hein, on peut débattre dessus, mais le Bayern, c'est peut-être pas forcément le grand Bayern que
surtout
que
en début de saison.
Et ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tous les cas, oui, je pense que ce que tu dis quand tu dis que ça peut être le piège ultime, je suis tout à fait d'accord dans la physionomie de la rencontre. Après, voilà, l'Inter s'est aussi un petit peu fait peur dans un moment du match face au Bayern, mais par contre, une réaction quasi instantanée. Et puis derrière la maîtrise du match, enfin je veux dire, ils ont eu 10 minutes à un moment donné avec le but de Lautaro, et après je sais plus qui marque le deuxième, ça vient dans la foulée, mais en termes enfin vraiment de disposition, et puis comment ils ont mis, voilà, ils se sont dit ok, c'est maintenant, on y va, puis après c'était fini, quoi. Donc oui, je pense que tu l'as bien dit, ça peut être le piège pour le Barça, mais moi je les vois vraiment forts cette année. En fait, je pense qu'ils raflent tout cette année.
Le Barça rafle tout. En tout cas, pour revenir un petit peu sur les deux rencontres, si en début de saison on nous avait dit des demi-finales avec Arsenal, le PSG, le Barça à l'Inter, au vu des formes sur les dernières saisons, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup entre nous qui aurait placé leur sou dessus.
Ah, je sais pas, tu vois. L'Inter, c'est logique. Arsenal, pourquoi pas. Paris un peu moins parce qu'en début de saison on avait ce renouvellement aussi, cette déstarification. Et le Barça, on savait pas trop à quoi s'attendre avec Hansi Flick.
Si on te le fait autrement, des demi-finales sans City, sans Liverpool, sans le Real.
Moi, je signe direct. Pour le Real, j'aurais pas été autant étonné que ça, je pense, parce que c'était voué à l'échec ces quatre devants. Derrière City, ça m'aurait étonné quand même.
Ouais,
City, ça m'aurait étonné.
City, Liverpool.
J'aurais été très content.
Ah ouais.
J'aurais été très heureux.
Mais c'est des demi-finales qui sont quand même. Qui change de ce qu'on a pu voir, et ça, pour nous, ça fait du bien.
Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on a que deux vainqueurs de Ligue des Champions là-dedans. Le dernier 10 ans, l'autre 15 ans.
Et il y a 10 ans, quelle équipe? C'est peu du tout la même équipe qu'il y a maintenant.
Carrément.
C'était la MSN, hein, il y a 10 ans. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. 2015, c'est ça.
Donc, ouais. Voilà. C'est bon.
Donc de l'incertitude dans les résultats, mais de la certitude par contre dans le fait que c'est peut-être le plus beau dernier carré qu'on ait eu au moins dans les années 2020. Dans les années 2010, on en a eu des beaux aussi, donc on pourra pas dire, et puis on va pas revenir sur le côté légendaire de ces années-là aussi. Mais voilà, on va clore cette page football avec donc cette Ligue des Champions qui nous laisse en haleine, et on en saura plus mardi prochain, pourquoi pas sur la potentielle finale, même si on va pas essayer de trop s'avancer non plus. Paulin, je me tourne vers toi. Le basket, la NBA, qu'est-ce que ça dit outre-Atlantique?
Ouais. Bon, alors déjà là, quand on me lance sur ce sujet, j'ai du mal à m'arrêter de parler, parce que là, du coup, ça fait un peu plus d'une semaine que les playoffs NBA elles ont commencé, donc on peut faire le point. Donc pour commencer, on peut parler des équipes qui se sont déjà qualifiées, parce que il y a eu deux franchises qui ont littéralement balayé leurs adversaires, un sweep comme on dit là-bas aux States, 4-0. Donc c'est d'abord le Thunder d'Oklahoma qui porte bien son nom, parce que le tonnerre, il s'est complètement abattu sur les Grizzlies de Memphis, 4-0 dans la série. 2-0 avec d'abord une large victoire d'OKC vraiment en facilité. Le deuxième match est maîtrisé, 2-0. Ensuite, on part dans le Tennessee du côté de Memphis avec une équipe de Memphis qui montre de belles choses. Plus de 29 points d'avance. Malgré ça, une blessure de Jamorant, bon, voilà, qui pêche un peu, parce que forcément, s'il est là, c'est peut-être pas pareil. En tous les cas, 29 points d'avance, ça a pas fait peur à OKC, parce que ils ont réussi à revenir, tout simplement. Donc un des plus gros comebacks de l'histoire de la NBA en playoff. Je crois que c'est le deuxième de l'histoire. Donc ils gagnent ce match 3-0 dans la série. Les Memphis perdent Jamorant. Ils se battent quand même pour le dernier match, le quatrième match, mais ça n'aura pas suffi pour venir à bout de OKC, qui s'impose 4-0 et qui donc confirme sur sa saison régulière exceptionnelle. Il y a une autre équipe du coup de l'autre côté, du côté de l'Est, qui a confirmé aussi. Dans le même registre, c'est les Cavaliers de Cleveland, qui donc s'étaient imposés deux fois à domicile pour mener 2-0 dans la série. Ensuite, tu pars à Miami en Floride, tu dis peut-être que Miami à domicile, ils peuvent faire quelque chose. Non, je vous rassure, pas du tout. Vraiment, il n'y a pas eu de match sur ce qu'ils ont proposé. Comme ils le disent, c'est la Cavalanche qui s'est vue déferler sur le Heat, et ça a refroidi tout signe de chaleur à Miami, parce que le troisième match, ils s'imposent de 37 points, et le quatrième match, donc c'était cette nuit, ils s'imposent de 55 points. Donc voilà, ils ont clairement détruit
le Heat. Ouais, sur une série de playoffs de l'histoire.
Ouais, plus 122 points de différentiel sur les deux matchs. Bon, eux aussi, ils ont envoyé un signe assez clair, parce que c'est quand même une des équipes qui s'est beaucoup fait sous-coter cette année en NBA.
Ils avaient besoin en plus pour...
Pour la confiance, c'est énorme. Et puis là, dans la suite en fait de ces playoffs, là, ils ont dit à toutes les autres équipes, ils ont dit ouais, on est là, et nous, on joue pour le titre.
Les Pacers en face, attention à vous.
Oui, clairement.
Parce que bon, ce sera les Pacers. Hein,
tu fais bien de lancer là-dessus, parce que du coup, autre série qui est à 3-1, c'est les Pacers d'Indiana face aux Bucks de Milwaukee. 3-1 dans la série. Les Bucks avaient réussi à réagir à domicile en prenant un match pour remettre la série à 2-1. Malheureusement, sur le match 4, Damien Lillard a rechuté. Blessure pour lui, rupture du tendon d'Achille dès le début de match. Donc forcément, ça a pas aidé les Bucks, et ça a rendu un peu le soldat Giannis. Je l'appelle beaucoup comme ça, parce que pour moi, il est vraiment seul dans cette équipe. Là, le soldat Giannis, je pense pas que c'est ce soir le match, je pense pas qu'il va pouvoir sauver les siens, surtout à Indiana. Et ça laisse d'ailleurs une question, je vais te demander ton avis là-dessus, Amaury. Est-ce qu'on va assister au dernier match de Giannis sous les couleurs des Bucks, sachant que si oui, ça marquerait vraiment la fin d'un cycle historique pour les Bucks, parce qu'il a marqué l'histoire de la franchise, et il leur aura permis de rapporter un titre en 2021.
J'ai envie de te dire oui, et c'est un peu un souhait aussi de ma part.
Ouais.
Que j'ai adoré cette franchise des Bucks, cette époque avec Jrue Holiday, Middleton, Giannis, quand ils vont chercher ce titre, et même un peu après. Mais en fait, depuis ce départ de Jrue et ce trade où on tente vraiment quelque chose avec Damien Lillard. On peut pas critiquer le trade sur le moment, mais il faut avouer que ça a pas marché. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin de reconstruire, qu'on voit Kai Kuzma qui arrive, où ça marche pas vraiment comme on le voulait. On a tenté, on a plus Middleton, on a plus Giroud. Il y a un moment, faut savoir. En NBA, faut savoir que couper un cycle pour partir sur de bonnes bases. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Faut trader Giannis pour aller chercher du pick de draft. Du pick de draft. Je pensais me tromper, mais non. Et maintenant, où il peut aller, ça, c'est une autre question, parce que forcément, il a un salaire qui est élevé. Toutes les franchises ne peuvent pas l'accueillir. J'ai vu les Nets. Est-ce qu'on a vraiment envie qu'il aille aux Nets?
Non.
Pas forcément. En tout cas, là, si c'est pour partir les Bucks pour aller aux Nets, je le souhaite moins. Maintenant, on a souvent entendu parler de Miami, on a parlé de Golden State. Maintenant, est-ce que c'est possible? C'est compliqué. J'ai vu un truc en échange avec Kevin Durant du côté des Suns. Ça me paraît dur aussi, mais pour il y aura des possibilités.
Ouais,
des franchises intéressées, il y en aura 29, c'est sûr. Des franchises qui pourront le faire, il y en aura moins. Et des franchises où lui voudra aller, parce que peut-être qu'on l'écoutera quand même vu ce qu'il a apporté aux Bucks. Ça, on verra.
Exactement. Affaire à suivre du coup pour Giannis. Les Celtics mènent 3-1 face au Orlando Magic. Bon là, pas d'inquiétude pour les Celtics, même si c'est des matchs un peu plus serrés, on va dire, que ce que les fans de NBA pouvaient penser. Mention spéciale au duo Wagner Banchero, qui est quand même assez exceptionnel. Banchero, ce qu'il fait, c'est très fort. Donc là, le match 5, c'est ce soir. Est-ce que Orlando survit et retourne en Floride, ou est-ce que le Celtics de Tatum, Brown et compagnie finissent le travail là-bas? On verra ça, on saura ça dès ce soir, aux alentours de 4h. Ensuite, direction New York City, pour parler de la magnifique série, d'une des plus belles franchises. Non, ça c'est parce que je suis pas objectif, parce que je supporte les Knicks, mais en tous les cas, là où je vais être objectif, c'est que les Pistons se sont sûrement fait voler. C'est un scandale, le dernier match. Moi, je suis fan des Knicks, par contre, il y a clairement faute de Josh Hart sur Tim Hardaway. Ça doit leur donner des lancers, et la série doit être à 2-2, parce que Tim Hardaway, il a joué pour New York, il aimait ses lancers. S'il en a 3, il en met au moins 1, et il en met 2 sur. Donc Détroit, s'est fait voler sur ce match.
Quand j'ai fait mon bracket pour les playoffs, j'avais mis un upset. J'avais mis les Pistons qui passent 4-2 en allant chercher le match 6 chez eux. Donc c'est vrai que quand j'ai vu j'ai regardé le match en direct, quand je vois ce qui se passe à la fin, j'ai vraiment un petit énervement. Vraiment, après. J'ai vu certaines personnes qui parlaient de la faute au rebond juste avant que le ballon parte dans le corner. Il y a peut-être une faute, mais ça a beaucoup laissé jouer dans le match. Donc derrière, ne pas siffler une faute sur un tir comme ça, ils l'ont reconnu après de toute manière les arbitres, qu'il y avait faute.
Terrible du coup de le faire.
Mais
après,
c'est fou sur un match de play-off qui avait une importance aussi grande de pas siffler une faute comme ça. Voilà.
Non mais puis les arbitres.
La série est quand même très bien partie maintenant pour New York avec ces 3.
Oui, puis pareil, le match 5 c'est ce soir, mais bon, tu vois les arbitres qui reviennent et dire voilà, il y a faute, on l'a pas sifflé, c'est juste aussi pour plomber encore plus le moral des fans de Détroit et des joueurs de Détroit. Donc bon, cette réaction, on va dire cette.
Après, vaut mieux avouer.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais de toute façon, il y avait faute. Tout le monde l'a vu. On finit du coup en beauté avec les affiches de l'Ouest, sûrement des affiches qui nous donnent beaucoup de spectacles. Les Lakers contre les Wolves, il y a 3-1 pour les Wolves, avec des Lakers qui sont dos au mur et qui se doivent de réagir. LeBron et Luka, là, les clés sont dans vos mains pour aller gagner à domicile. Parce que franchement, les Wolves aussi c'est pareil, tout le monde voyait les Lakers aller loin, mais ce que font les Wolves c'est vraiment très 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 fort. On a les Warriors aussi là qui mènent 3-1 actuellement contre les Houston Rockets, qui ont pris les deux matchs à domicile. C'était important de le faire pour eux. Houston, ils sont pas à la ramasse, ils peuvent le faire, mais le problème c'est tu laisses des lancers, les tirs extérieurs, t'as Jalen Green qui est pas dedans, donc forcément ça t'aide pas. Et la dernière série, je finis rapidement, c'est les Clippers face aux Nuggets. Pour moi c'est la meilleure série de ce début de playoff en termes de scénario, en termes d'intensité, du buzzer beater avec le putback d'Aaron Gordon sur le dunk. En gros, rapidement, Jokic essaye de prendre un tir à 3 points, Aaron Gordon le prend en l'air et met le dunk pour offrir la victoire. 2-2 dans la série, ça promet pour la suite, et franchement moi les playoffs j'adore en parler, j'adore la NBA, et pour notre plus grand plaisir, le spectacle n'est pas fini.
Merci beaucoup Paulin pour ces quelques informations sur la NBA. On voit que c'est serré de partout, on voit qu'il y a un intérêt quand même énorme cette année à suivre le basket outre-Atlantique. Donc on va suivre ça de près, notamment grâce à toi, tout au long de ces playoffs, et puis on espère que la fin de saison sera belle. Nous on va se quitter, on n'a pas eu le temps de parler des autres informations. On prendra le temps la semaine prochaine de parler notamment du cyclisme avec la fin donc des 4 premiers monuments, ça y est c'est acté, revenir un petit peu sur cette saison. et puis sur ce qui peut arriver dans les prochaines semaines, notamment avec le Tour de France. Et puis on va se laisser avec la suite sur Radio G. On vous souhaite une